Et nous voilà de retour pour la première visite radiophonique de l'année 2020 avec Nelly Lafond du Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et bien sûr Caroline Entraigue du CAUE de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors on va aller où aujourd'hui ?
Alors la dernière fois, si tu te souviens Ludo, on avait fait une visite plutôt légère sur les traditions de Noël. Et il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est les fameuses bonnes résolutions de la nouvelle année.
Et donc on a décidé de te rendre incollable sur l'architecture en 2020. Donc pour ça, il faut qu'on aille allumer un cierge à la cathédrale.
Plus sérieusement, on s'est dit quand même, ça va être la dernière émission sûrement de pendant un bon moment. Et on ne pouvait pas partir sans parler, sans évoquer le monument emblématique de la ville qui est la cathédrale de Mende. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Bon, ben on n'a pas fait beaucoup de chemin pour y arriver. On est devant cette cathédrale, cette magnifique cathédrale de Mende.
Donc voilà, on est au cœur de la ville de Mende. Donc, je vais le redire, on l'a déjà dit plusieurs fois en faisant visiter Mende, hein. Mais du coup on avait une implantation qui était d'abord au pied des sources de la Vape, un peu plus haut sur la partie, sur les contreforts du Mont Mima, et une ville qui va se développer, vraiment la ville de Mende, autour des différentes unités paysagères de la Lozère. On est vraiment au cœur de la Lozère, entre la Margeride, l'Écosse, la vallée du Lot, au pied du Mont Mima. Et donc les premières implantations qui se situaient aux sources de la Vape, petit à petit, on est venu coloniser, je vais y arriver, ce petit promontoire entre le Lot dont on se méfiait et dont on se méfie toujours, et le contrefort qui était difficilement constructible. Donc on s'est implanté sur ce petit replat, un peu en surplomb du Lot.
Alors, pourquoi cette cathédrale ici ? Eh bien, il nous faut remonter au 3e ou au 5e siècle avec l'histoire de Saint-Privat, puisque la ville de Mende est intimement liée au développement du pèlerinage de Saint-Privat. Alors, on sait peu de choses de Saint-Privat. A-t-il réellement existé ? Ça, on ne sait pas. Simplement, son histoire ou sa légende nous a raconté au 6e siècle par Grégoire de Tours. Saint-Privat serait venu à Mende prier lors de l'attaque des Alamans, dont leur chef était Crocus, et il aurait été martyrisé ici et enterré à la suite de son martyr. Et sur son tombeau aurait été élevée une première basilique qui aurait donc développé un pèlerinage. Ce qu'on sait, puisque là, c'est des suppositions, c'est la tradition locale qui nous rapporte ça. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1170, l'évêque Aldebert III du Tournel va redécouvrir les reliques de Saint-Privat en creusant un puits dans sa résidence épiscopale qui est située au nord de la cathédrale. Et de là va se développer donc un pèlerinage très important qui va avoir pour conséquence l'essor de la ville de Mende.
Et c'est vrai que sur cette place de la cathédrale, on a le palais épiscopal qui était à l'emplacement de l'actuelle préfecture et du conseil départemental, qui a été reconstruit après un incendie en 1889, et ce qui a amené à aménager toute cette place, qui aujourd'hui s'appelle forcément la place Urbain 5, mais je laisserai Nelly vous présenter ce personnage qui n'est pas pour rien dans l'histoire de la cathédrale. Et cette place donc, a été aménagée à plusieurs reprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une place qui est vide, hein, comme à l'image des autres cathédrales de France, mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait des constructions autour de la cathédrale et sur cette place Urbain 5 qui ont été démolies pour justement laisser suffisamment de recul pour pouvoir lire l'entièreté de cette cathédrale qui est hors échelle, on pourrait dire, quasiment par rapport à la ville de Mende. Et puis l'une des dernières démolitions en 1898, c'est la maison du sonneur qui avait juste devant nous, qui a été démolie en 1898, et l'aménagement de la place telle qu'on la voit aujourd'hui en 2002.
Voilà, à l'époque du palais épiscopal, avant que la cathédrale soit construite, quel bâtiment existait sur la ville de Mende ? On était sur quelle superficie à peu près? C'était que la vieille ville ou les remparts n'étaient même pas encore construits? On en était où?
Alors, c'est justement Aldebert III du Tournel qui va faire entourer la ville de Mende de ces fameux remparts. Ce qu'on peut dire, c'est que la ville de Mende va se développer autour de cette cathédrale qui, avant d'être gothique, est une cathédrale romane. Donc, il y avait une première construction bien avant la cathédrale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et le palais épiscopal, qui est aujourd'hui l'actuelle préfecture, était situé à cet emplacement-là et était d'ailleurs relié directement à la cathédrale par une galerie, par un couloir qui permettait un accès direct entre les deux bâtiments.
Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette cathédrale, elle a été classée monument historique assez tôt, en 1857. Donc c'est un monument qui est important et qui est classé depuis déjà près de 150 ans.
Oui, il fait partie de la première liste des monuments classés en France. Et ce qu'on peut rajouter, mais Caro peut-être va en reparler tout à l'heure, c'est que là, donc on est face à la façade occidentale de la cathédrale. On a donc sur notre droite l'ancien quartier du chapitre, ce fameux pan de claustre qui s'est développé donc au contact directement de cette cathédrale.
C'est l'un des plus anciens quartiers de Mende, avec le quartier du Pan d'Auriac qui était juste à côté et qui abritait plutôt des maisons assez bourgeoises, assez riches, comparé au Pan d'Auriac.
Alors, ce qu'on te propose, Ludo, c'est de se déplacer, parce que comme l'a dit Caroline, la cathédrale, nous la devons à la volonté et à l'argent d'un seul homme, c'est le pape Urbain V. Et donc, on va se déplacer pour l'évoquer devant sa statue qui trône sur la place.
On est devant la statue donc, qui nous signifie que cette statue a été construite au bienheureux pape Urbain V, pape de 1362 à 1370, bienfaiteur du Gévaudan, donc le 28 juin 1874, donc bien après la vie de ce pape lozérien.
Oui, parce que le pape Urbain V va être béatifié en 1870. Donc c'est certainement suite à la béatification de ce pape qu'une statue est érigée ici. Alors, Caro va en parler un petit peu pour l'aménagement de la place. Elle va être déplacée plusieurs fois, cette statue. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est la seule statue en pied de la ville de Mende. C'est le seul, la seule... voilà.
Ah, c'est vrai, oui.
Oui, voilà. Petite anecdote pour briller en société.
C'est à la fin de l'émission, normalement, ça, Nelly.
Mais on en a d'autres.
La statue a été déplacée durant l'histoire?
Oui, ben là, tout est déplacé récemment par l'aménagement de 2002. C'est que la statue était plutôt centrée sur la place. Et donc, pour libérer la perspective sur la cathédrale, c'est vrai qu'il a été fait le choix de la positionner plutôt sur le côté.
Ce bronze est achevé en 1867 et que c'est l'œuvre d'Auguste Dumont. Auguste Dumont, qui est quand même Grand Prix de Rome. Donc voilà, on connaît beaucoup de ces statues, enfin beaucoup de ces sculptures ornent les places à Paris et à Versailles aussi. Un mot sur le pape Urbain V, parce que alors aujourd'hui, on va y revenir au cours de la visite. La cathédrale telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit de nombreux remaniements, destructions, reconstructions, réaménagements. Dans sa physionomie générale, elle est due au pape Urbain V qui va introduire les formes gothiques en Gévaudan, puisque on a très très peu de traces de la cathédrale romane aujourd'hui. Le pape Urbain V, pourquoi il va doter la ville de Mende de cette cathédrale? Eh bien parce qu'il est originaire du Gévaudan, il est né à Grisac, sur l'actuelle commune du Pont de Montvert, et il va devenir pape peu de temps, malgré le fait qu'il ne soit à l'époque ni évêque ni cardinal, mais il a déjà un tempérament de bienfaiteur et de négociateur, et c'est pourquoi il va prendre la tête de la papauté pendant ces quelques années au XIVe siècle. Donc c'est à lui que nous devons les formes gothiques en Gévaudan, qui sont très timides chez nous. Hormis la construction de la cathédrale de Mende, ça va plutôt se limiter à certaines chapelles qu'on va ajouter aux édifices romans, ou alors à des portails, ce genre de choses.
Et pour compléter sur ce qui entoure la place, on en avait parlé lors de la dernière visite, mais c'est vrai qu'il y avait également le cimetière qui était contre cette église et cette cathédrale, qui aujourd'hui a disparu. Mais en tout cas, voilà, ce qui entourait la place, c'était finalement peu d'espace à l'origine, avec des maisons construites un petit peu tout autour. Et on a vraiment dégagé l'espace pour lui laisser toute sa splendeur. Ben on va rentrer pour visiter et voir vraiment l'importance de cette cathédrale, de cette Valido.
Ça me va très bien. Ça y est, on vient de rentrer dans la cathédrale. Caro, architecturalement, est-ce que c'est une cathédrale atypique ?
Non, on est sur une forme assez classique, j'ai envie de dire, de cathédrale. Alors, du coup, comme le disait Nelly, la cathédrale, elle prend la suite d'une architecture romane qu'il y avait ici au Moyen-Âge. Donc, les travaux de la cathédrale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire après cette fameuse église dont parlait Nelly tout à l'heure, église romane, les travaux commencent vraiment en 1369 et l'église et la cathédrale est consacrée presque 100 ans plus tard, c'est-à-dire en 1467. Puis suite aux guerres de religion, elle a dû être en partie reconstruite à partir de 1600 et a fut à nouveau consacrée en 1620. Donc c'est une cathédrale qui a été beaucoup remaniée avec le temps, mais qui reprend les grands classiques des cathédrales françaises. Alors ce qu'on peut voir, c'est que du coup ici, on est au milieu, dans ce qu'on appelle le vaisseau central, avec de part et d'autre des collatéraux, avec des chapelles, dont Nelly nous parlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'est un plan qu'on appelle de type basilical, et on trouvera juste derrière, au niveau du chœur, deux chapelles rayonnantes qui montrent bien le côté déambulatoire et pèlerinage de cette cathédrale.
L'évolution de la cathédrale romane puis gothique, c'est une évolution habituelle dans l'histoire des constructions ?
Oui, alors c'est les constructions. Au Moyen-Âge, on est sur de l'architecture romane. Donc la plupart de nos églises en Lozère, elles ont un style roman, c'est-à-dire qu'on a des arcs, ce qu'on appelle en plein cintre, qui sont vraiment arrondis. On a des murs très épais et une église à échelle d'homme, c'est-à-dire que c'est pas très haut sous plafond, on a peu de lumière. Et ensuite, on passe à l'architecture gothique. Là, on a un changement à la fois dans les méthodes d'architecture, mais aussi dans la pensée de la religion. Donc, on va essayer de faire des monuments plus imposant pour montrer la puissance de Dieu. Donc on va essayer de monter le plus haut possible, comme on le voit ici sur la cathédrale, et on invente à cette époque l'arc qu'on appelle gothique, l'arc brisé. On voit justement qu'il est un petit peu plus pointu et qui permet d'avoir une structure plus légère et de pouvoir monter plus haut. Donc ces arcs se reposent sur des colonnes ou des piliers, et donc là les murs sont moins porteurs et du coup on peut avoir de nombreux vitraux. Du coup on a des cathédrales qui sont beaucoup plus impressionnantes, beaucoup plus imposantes, qui sont vraiment là pour montrer la puissance de Dieu, contrairement à l'église romane qui était plutôt une église à taille humaine, à échelle constructive comme on pouvait faire à l'époque. Et c'est vrai que sur les églises gothiques, on a quand même une technicité au niveau de la structure qui est assez importante pour l'époque, hein, puisqu'il n'y avait pas d'architectes tels qu'on pouvait en parler aujourd'hui. On avait des tailleurs de pierre qui ont réussi à faire une structure qui s'apparente aujourd'hui à ce qu'on pourrait avoir sur une structure métallique ou une structure bois. Voilà. Donc on a d'imposants contreforts à l'extérieur, que l'on va voir tout à l'heure, qui permettent de maintenir cette structure qu'on peut appeler légère, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais pour faire un parallèle entre une architecture en pierre comme on a aujourd'hui et une architecture par exemple en bois ou en métal où on retrouverait un petit peu la même logique constructive.
C'est une taille équivalente à d'autres cathédrales de la même époque ou elle est un peu plus grande, un peu plus petite ?
On est dans des tailles assez classiques. Si on prend par exemple les hauteurs de clochers, on a un clocher qui est plus haut que le clocher de la cathédrale d'Albi par exemple. Donc on est sur une cathédrale qui est vraiment à l'échelle des cathédrales que l'on retrouve dans le reste de la France. Et c'est vraiment, c'est pas une petite cathédrale de province quoi.
Et pour compléter, donc la nef, donc ce fameux vaisseau dont parlait Caroline, a une hauteur de 25 mètres sous voûte. Donc c'est pas, voilà, c'est honorable comme hauteur pour une cathédrale. Et même si elle reste classique, notre spécificité ici, c'est vraiment, on l'a bien vu à l'extérieur quand on était devant la façade occidentale, c'est que cette cathédrale, elle est complètement disproportionnée par rapport à la ville. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est une cathédrale qui a été voulue par le pape Urbain V qui a voulu vraiment doter le Gévaudan d'un monument à sa hauteur.
Si tu veux, on se dirige vers les allées latérales, comme ça on pourra voir les croisées d'ogives justement, et on pourra regarder toutes ces chapelles qui sont le long du déambulatoire de la cathédrale.
Rappelle-nous ce qu'est une croisée d'ogives.
En fait, on est à la croisée de deux axes, voilà, où on a quatre voûtes le long de deux axes, donc on voit des arcs qui se croisent, maintenus au milieu par une clé. Et donc, ces croisées d'ogives, structurellement, c'est assez complexe parce qu'en fait, elles reposent sur des piliers. La clé de voûte est très importante parce que si elle n'y est pas, ça s'effondre. Mais toutes les quatre voûtes qui sont autour jouent aussi un rôle constructif. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à la cathédrale Notre-Dame, il faut casser la plupart de ces voûtes pour pouvoir reprendre tous les arcs. Cette cathédrale, elle est riche quand même, au-delà de l'architecture, elle est surtout riche en décors et en mobilier et en objets. Voilà, c'est ce qu'on ne se doute pas en visitant la cathédrale. Il n'y a pas qu'une architecture, c'est vraiment tout le mobilier, les objets et aussi l'iconographie qui sont très intéressantes dans la cathédrale. Mais je vais laisser Nelly vous le présenter. On va pour ça se diriger sous les orgues, donc dans la vraie porte d'entrée qui aujourd'hui est fermée.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Caroline, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1581, les troupes du capitaine Merle vont assiéger la ville et vont assiéger la cathédrale.
Le soir de Noël.
Oui, tu as bien retenu. Ça, c'était en 1781, donc. Et suite à cette destruction assez importante de la cathédrale, puisque pour faire fondre la cloche, la fameuse cloche, la non-pareille, dont on va parler après, la cathédrale va être incendiée. Donc, on va reconstruire la cathédrale à partir de 1600, sans façon ni ornement. C'est ce que nous expliquait Caroline. C'est-à-dire que on va la reconstruire, mais sans apporter de soins, avec une architecture extrêmement dépouillée. C'est ce qu'on a ici. Par contre, on a un mobilier extrêmement riche et extrêmement diversifié qui retrace un peu les différentes époques de la cathédrale et sur lesquelles on va pouvoir s'arrêter. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tout, mais on a sélectionné quelques petits éléments qui nous paraissent vraiment primordiaux quand on visite la cathédrale.
Premier élément important, peut-être pas dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre de situation, on est devant la porte là, ce serait quoi ?
Alors, on a devant les yeux deux éléments importants. D'abord, une pierre tombale qui daterait du XVe siècle, qui représente donc un chevalier fauconnier, datable du XVe siècle. Et cette représentation d'un chevalier fauconnier est très rare. C'est celle du chevalier de Corsac. Et elle est aujourd'hui présentée sur la façade occidentale de la cathédrale, mais elle était à l'origine située dans la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, aujourd'hui chapelle de la Trinité. Donc une chapelle du collatéral sud.
Quand est-ce qu'on l'a mise, cet emplacement ?
Alors ça, je ne sais pas exactement la date où elle a été placée ici. Par contre, tu peux voir, on peut en faire une petite description, donc une très belle représentation en bas-relief d'un chevalier donc sur son cheval avec un faucon et avec les armes de la famille représentées donc en bas de la pierre tombale. Alors juste à côté, on a le fameux battant de la Non-Pareille. Alors la Non-Pareille, tout le monde connaît, c'est la fameuse cloche qui était à l'origine située dans le grand clocher de la cathédrale. Et donc si on lève les yeux, on a donc sur la voûte du grand clocher donc ce cercle qui représenterait le fameux passage et le diamètre en fait de la cloche de la Non-Pareille qui aurait été hissée jusqu'en haut de ce fameux clocher. Et le battant, donc, qui est la seule partie qui nous reste, puisque la Non-Pareille a été fondue pour en faire des couleuvrines et des canons par les troupes du capitaine Merle. Le seul élément qui nous reste, c'est ce fameux battant qui n'a pas pu être fondu puisqu'il est en fer.
Elle était d'une taille gigantesque, cette cloche.
Elle était d'une taille gigantesque. Elle faisait 3,25 mètres de diamètre sur 2,75 mètres de hauteur pour 33 cm d'épaisseur. Elle pesait environ 25 tonnes et selon la tradition, elle ressemblait au toit de la tourelle d'escalier du grand clocher. Mais ça, on en reparlera quand on sera à l'extérieur. Que dire de plus donc sur cette Non-Pareille ? Elle a le surnom de Marie-Thérèse, mais Marie-Thérèse est un surnom qui vient un peu plus tardivement en fait dans les écrits. Et pourquoi la Non-Pareille ? Parce qu'elle n'avait pas son pareil dans toute la chrétienté, dit-on. On disait qu'elle s'entendait à 4 lieues à la ronde, c'est-à-dire à peu près jusqu'à Chanac quand elle sonnait. Et simplement, donc pour terminer, la cloche sonne pour la dernière fois lors de la messe de 1579, la fameuse fois, Ludo, comme on te le disait la dernière fois, où le capitaine Merle va profiter de la messe de minuit pour assiéger la ville.
Allez, on va remonter la cathédrale. Pour aller où ensuite ?
On remonte donc le collatéral nord pour aller dans la chapelle Notre-Dame, où est exposée la Vierge Noire, qui est un des éléments du mobilier le plus important de la cathédrale.
Hola menina de la cidade, você me diz, tem não saudade. It tastes like spinning smokes, we fucked until the backbone. Every time I go, you break like wood and bone. Said it tastes like, but we fucked until the backbone. Elle avait le nez percé comme le rocher à Gaspé. Je m'approchais doucement, elle me tendit le tarpé. Elle me checkait comme le mic, comme mélange de Lucky Strike. Et le vent me chuchota qu'elle avait besoin de l'air. Ses hanches déménageaient comme le 1er juillet. C'est l'état de Providence, on a vidé le sachet. Le soleil me réveilla, fantôme à la fenêtre. Déjeuner me marocain, café joint mon appareil. Dans ma life, les caprices de l'imprévu. Me voilà dans des beaux draps, l'agenda m'a disparu. Sans jamais dire mon nom, lui demander le sien. J'ai compris tout à coup que le monde sera rien. It tastes like spinning smokes. We fucked until the bedbows. Every time I go, break like good and bones. It tastes like, I don't know who to believe. I won't make a sound when I leave. No ties that suit me. Just don't play for keeps. It tastes like spinning smoke. We fucked until the bedrooms. Every time I go, break like building bombs. It tastes like spinning smoke. We fucked until the bedrooms. Every time I call.
vous écoutez présentement la musica popolare de Verdun. Stay tuned.
Regarde derrière Ludo sur les piliers, on voit bien les parties qui ont été reconstruites et des parties qui étaient préexistantes. Donc les parties reconstruites sont les piliers qui sont sur notre droite, qui sont en lien avec le vaisseau central. On voit du coup cette disparition un petit peu des décors comparés aux piliers originaux qui, eux, sont sculptés sur la partie basse et qui ont un peu plus d'ornement.
On va voir la Vierge Noire, c'est Auvergnat, les Vierges Noires.
Oui, c'est la tradition nous vient d'Auvergne, effectivement.
Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, il me semble.
Alors, il y en a très peu, mais on a quand même d'autres exemples de Vierges Noires, notamment dans l'église de Saint-Bosile, l'église aussi de Pelouse, pour rester dans le secteur autour de Mende.
Saint-Florent, dans le Cantal, non, il y en a?
Oui, il y en a aussi effectivement à Saint-Flour. Alors celles que je viens de citer ne sont pas du tout de la même période, ne sont pas romanes, hein. Ce ne sont pas des vierges du XIIe siècle comme on a ici sous les yeux. Alors, donc on est ici dans la chapelle nord du cœur de la cathédrale qui est dédiée à Notre-Dame. Et on a donc sous les yeux cette fameuse Vierge Noire en bois polychrome, donc c'est du bois d'olivier, qui daterait vraisemblablement du XIIe siècle. Donc une statue qui est classée au titre des monuments historiques et qui a longtemps été exposée sur le maître-autel de la cathédrale. Il faut l'imaginer à l'origine sans vêtements. Hein, aujourd'hui, elle est habillée, mais à l'origine, elle était couverte de lames d'argent qui ont disparu. Elle porte l'enfant Jésus sur ses genoux. On ne le voit pas à cause de ses vêtements, et ce qui a disparu aussi également, c'est les avant-bras de la Vierge qui ont disparu malheureusement à une époque antérieure. Alors aujourd'hui, on a énormément de légendes autour de cette Vierge, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Ce qu'on peut quand même avancer sans trop d'inquiétude, on va dire, c'est qu'elle date vraisemblablement du XIIe siècle, qu'elle a été plusieurs fois sauvée de la disparition. Une première fois lors de la mise à sac de la cathédrale par Merle à la fin du XVIe siècle et une deuxième fois pendant les troubles révolutionnaires. Et c'est à ce moment-là qu'ont disparu les avant-bras de la Vierge et de l'enfant.
Et donc juste derrière cette fameuse Vierge Noire, on voit un pan de mur qui paraît un petit peu... hors contexte. En fait, c'est le pan de mur d'un ancien clocher qui aujourd'hui a disparu, qui avait été reconstruit en 1465. Et on devine ici, dans l'enduit, une ancienne porte, voilà, qui était une autre entrée de la cathédrale. Et juste au-dessus, on peut voir les blasons. Donc, c'est le blason du fameux Urbain V.
Alors, on continue.
On déambule.
Voilà. On prend ce fameux déambulatoire qui permettait aux pèlerins de venir se recueillir sur les reliques de Saint-Privat pour aller jusqu'à la chapelle Saint-Privat, justement la deuxième chapelle rayonnante du cœur de la cathédrale, où est conservé un élément du mobilier remarquable de la cathédrale et unique.
Qui est
donc ce fameux primitif italien qu'on a sous les yeux, donc ce panneau de bois peint, qui est unique. Pourquoi ? Parce que ce type d'élément se retrouve de manière très 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 rare dans les cathédrales. C'est généralement pas là qu'on va les conserver, c'est dans les musées, et ça a été une volonté de l'évêché qu'il soit exposé suite à sa restauration dans la cathédrale aux yeux des visiteurs. Donc ce primitif italien, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien, il représente Urbain V. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a ici une représentation du pape du XVe siècle, c'est-à-dire une génération après sa mort. Ça nous montre qu'une génération après sa mort, le pape Urbain V est déjà vénéré. Alors comment il est représenté ? Il est représenté en habit rouge, auréolé, portant la tiare, bénissant de la main droite et
On peut le voir, il porte dans sa main gauche les chefs de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est-à-dire les têtes de Saint-Pierre et Saint-Paul, qu'il aurait retrouvées à Saint-Jean du Latran suite à une vision qu'il aurait eue pendant la nuit. Ce panneau peint est attribué au maître napolitain de Saint-Ladislas, qui est actif vers 1400. Donc un primitif italien extrêmement bien conservé, qui a été restauré il y a quelques années et qui est unique pour le département de la Lozère.
Et là où on se situe, on peut apercevoir, si on lève la tête en haut, justement la tête d'Urbain Semp qui est sculptée directement sur la pierre. C'est le seul endroit de la cathédrale où elle apparaît.
Oui, c'est le comme un masque mortuaire en fait du pape Urbain V, qui est situé donc à la clé de voûte de la chapelle qui lui est dédiée. Et on a donc aussi à l'entrée de la chapelle, au-dessus, les armes d'Urbain V qu'on retrouvait, comme le disait Caroline, au-dessus de l'ancien clocher.
Pour compléter sur l'influence qu'a eu Urbain V sur l'architecture, c'est vrai qu'il a fait venir en Gévaudan cette architecture gothique de manière assez tardive finalement. Ça faisait presque 100 ans, 200 ans que le gothique était arrivé en France, et il est arrivé en Gévaudan grâce à Urbain V. En tant que pape, il a amené cette culture du gothique en Lozère et nous a amené le gothique sur cette grande cathédrale.
Donc évidemment, il y a plein d'autres choses à voir dans la cathédrale. On n'a pas le temps de parler des orgues, on n'a pas le temps de parler de la crypte Saint-Privat, des tableaux, d'autres choses qui méritent de s'arrêter. Mais ce qu'on te propose, c'est de ressortir et de s'arrêter, de prendre le temps d'observer cette façade qui est assez emblématique de la cathédrale.
Et peut-être juste avant de sortir, il y a d'autres éléments remarquables qu'on n'a pas cités, mais on a les tapisseries d'Aubusson que l'on voit dans le faisceau central, pas très loin du chœur, qui sont assez remarquables, qu'on voit pas très bien si on lève pas les yeux, mais ce sont des éléments très remarquables. Si Nelly veut en dire quelques mots.
Non, mais juste simplement dire qu'elles ne sont pas du tout contemporaines des tapisseries d'Aubusson de la mairie de Mende, pour ceux qui les connaissent. Et que donc ces tapisseries sont dues à Monseigneur de Piancourt, donc au XVIIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, et qu'elles sont dédiées au cycle de la Vierge Marie. On l'a pas dit avec Caroline, effectivement, la cathédrale est dédiée à Saint-Privat et à Notre-Dame. Donc un culte marial très important ici, comme dans beaucoup d'autres endroits, évidemment. Mais donc voilà, des tapisseries qui sont installées donc dans le cœur de la cathédrale et qui sont descendues par un système de poulies quand l'occasion se fait nécessaire.
Donc là, on vient de ressortir, on se trouve devant la cathédrale.
Oui, parce que comme on le disait à l'intérieur, c'est vrai que autant à l'intérieur, la cathédrale n'a pas une architecture flamboyante, c'est-à-dire plein d'éléments décoratifs, on est sur quelque chose d'assez sobre. Autant à l'extérieur, face à cette façade principale, on peut voir une entrée où on est vraiment dans ce qu'on appelle le gothique flamboyant, notamment sur le clocher qui est à gauche, où on peut voir de nombreuses gargouilles, il y en a à peu près 35 sur le clocher, et ce portail d'entrée qui lui est plus contemporain, c'est une adjonction qui est à la fin du 19e siècle, qui est un portail néo-gothique où on retrouve comme ça pléthore de décors à la fois floraux et de gargouilles. Donc comme on le disait au début, c'est vrai que la cathédrale commence les travaux à partir du XIVe siècle, mais pour des raisons économiques, mais aussi des conflits, on en a parlé sur les guerres de religion et autres, une partie de la cathédrale va être reconstruite aux alentours de 1600. Voilà, ce qui explique qu'on a ce style gothique flamboyant qui fait son apparition sur cette reconstruction. Pour donner une échelle, donc le clocher le plus haut est de 84 mètres. Donc le plus haut des clochers à l'époque était celui de Beauvais, avec une hauteur de 153 mètres, mais qui s'est écroulé au bout de 4 ans, en 1569. Et donc le plus haut aujourd'hui, c'est celui de Rouen, qui a été achevé par contre en 1884, suite à la reconstruction de la cathédrale, et qui lui fait 151 mètres de haut. Mais par contre, on est plutôt bien classé, c'est-à-dire que la cathédrale de Clermont-Ferrand, par exemple, a un clocher de 108 mètres. Notre-Dame de Paris, dont on a beaucoup parlé, a un clocher de 96 mètres. Donc on est plutôt bien placé avec un clocher de 84 mètres. Comme je disais tout à l'heure, on devance Albi et Quimper, et même Bourges, à 65 mètres. Et donc justement par rapport à ces clochers, comme on sait que tu aimes les anecdotes pour briller en société, on en a une dernière pour toi.
Alors sais-tu pourquoi les deux clochers de la cathédrale ne sont pas identiques ?
Non, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas me le dire.
Mais t'as pas une petite idée ?
Parce qu'ils ont été construites à des époques différentes ?
Alors, on a entendu beaucoup de choses. On entend encore beaucoup de choses sur ces clochers. Effectivement, il y en a un qui serait gothique, l'autre roman. Un qui serait construit par les chanoines, un autre par l'évêque. Et bien depuis le colloque organisé en 2012 par le Pays d'Art et d'Histoire, nous savons que ces deux clochers sont contemporains et sont tous les deux financés, c'est-à-dire construits et voulus par l'évêque de Mende, qui est François de La Rovère à l'époque, en 1508. Donc ça, voilà, même si encore aujourd'hui, beaucoup de fausses vérités sont véhiculées sur ces clochers, il faut savoir que ces deux clochers donc, sont donc bien contemporains et sont voulus par l'évêque François de La Rovère. D'ailleurs, même le petit clocher porte les armes de l'évêque, qui montre qu'il a financé aussi. Alors, comment expliquer cette différence de hauteur et d'ornementation entre les deux ? Eh bien, peut-être par les conflits qui vont avoir lieu entre l'évêque et le chanoine. Rappelons que la préfecture est à l'origine le palais épiscopal, et peut-être que l'évêque a voulu donc construire à côté de son palais le plus grand, le plus beau clocher, parce que l'architecture est avant tout une histoire d'homme, une histoire d'ego et de pouvoir.
D'où les guerres de clochers.
Exactement.
Il y a de l'actualité autour de la cathédrale ?
Oui, donc elle a été récemment rénovée, mais il va y encore avoir de nouveaux travaux de rénovation, notamment un projet de mise en valeur du trésor de la cathédrale, avec la réouverture de la porte que l'on a vue tout à l'heure, hein, derrière la chapelle Notre-Dame, pour y faire une salle d'exposition. Et également l'aménagement d'une salle à l'intérieur du clocher pour y exposer les trésors de la cathédrale. Donc ça, c'est les aménagements qui vont avoir lieu en 2020.
Et puis rappelons que donc des visites guidées sont organisées tout au long de l'année par l'Office de tourisme Cœur de Lozère, des concerts également.
Donc en début d'émission, vous m'avez dit que c'était une des dernières parties sur Mende avant un moment. Donc où est-ce qu'on va partir la prochaine fois ?
Ah, alors la prochaine fois,
on part en voyage.
On part en voyage et il faudra que tu penses à composter. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.